Et aujourd'hui, nous allons continuer à réfléchir sur l'acte conjugal et sous l'angle de la procréation. Nous verrons particulièrement la question de la régulation des naissances, mais nous n'oublions pas les couples qui souffrent de stérilité, et donc nous en parlerons, mais plutôt la prochaine fois encore. Sur cette question de la régulation des naissances, donc c'est-à-dire aussi sur la question de du jugement de l'Église par rapport à la contraception, c'est évident qu'il y a énormément d'obstacles à la compréhension de ce que l'Église enseigne, difficulté à comprendre mais aussi difficulté à vivre cet enseignement qui est plein de sagesse, d'une sagesse divine, qui est en même temps complètement en contradiction avec la pensée dominante du monde moderne. Alors, permettez-moi de vous dire, vous avez le droit de ne pas comprendre. Moi-même, en tant que séminariste, pendant longtemps, j'ai cherché à en avoir une intelligence plus profonde, et c'est seulement après 2 ans à l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille que j'ai eu l'impression vraiment de saisir en profondeur. Mais je m'aperçois en retravaillant ces questions-là qu'en fait on est vraiment devant un dessein divin qui dépasse les capacités de notre intelligence humaine. Donc il faut accepter de rester petit devant cet enseignement et d'invoquer l'esprit de vérité comme nous l'avons fait pendant la louange. Je voudrais partir de la parole de Dieu. La première parole adressée par Dieu dans le livre de la Genèse à Adam et Ève: soyez féconds et multipliez-vous. Il nous dit qu'il y a un appel de Dieu dès l'origine inscrit dans le cœur de l'homme et de la femme, et qu'il y a une réponse donc que Dieu attend. Cette réponse que Dieu attend dans cette mission pour la vie, soyez féconds et multipliez-vous, l'Église nous enseigne qu'elle est au service. Elle doit être comprise comme une coopération, une collaboration à la paternité de Dieu. En quel sens? Au sens qu'à la différence des animaux, l'homme est un être spirituel qui est d'abord un esprit incarné, mais cet esprit est créé directement par Dieu. Au moment de la conception, l'Église nous invite, on y reviendra, à penser que cette création de l'âme spirituelle de l'homme, a lieu au moment de la conception, et qu'en réalité, l'homme et la femme ne font que poser les conditions d'une nouvelle vie. Chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par les parents. Ça veut dire aussi une vérité très libératrice, comme aimait le dire le père Marie-Dominique Philippe: nous ressemblons plus à Dieu qu'à nos parents. C'est Dieu qui nous crée à son image, en créant cet esprit que nous sommes essentiellement, et il nous crée cet esprit dans un corps, hein. L'unité des deux ne faisant qu'une seule nature, mais la création de l'homme, elle est essentiellement cette création de son âme. Et encore une fois, l'homme et la femme ne font que poser les conditions de l'avènement d'un nouvel être créé à l'image de Dieu. Ça signifie aussi tout de suite que ce que nous devons comprendre, c'est que l'homme n'est pas le maître de la vie. Comme dit le cardinal Ratzinger, il en est plutôt le gardien et l'administrateur. Il est, quand il procrée, il est ministre de Dieu, ministre du dessein de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle aussi il doit vivre sa fécondité donc dans l'écoute de Dieu, dans l'écoute de la sagesse de Dieu, selon les voies que Dieu a choisies. Mais voyez, la question de la procréation, elle pose une question de fond, c'est-à-dire elle nous ramène à la manière dont nous vivons notre vie. Est-ce que nous la vivons d'abord comme serviteurs de Dieu, ou est-ce que nous la vivons, je dirais, comme quelque chose que nous gérons nous-mêmes, hein, dans l'oubli de notre dépendance à Dieu? L'Église nous invite à comprendre que la procréation doit être vécue donc dans cet esprit de service, et elle parle d'un très grave devoir de transmettre la vie humaine, au sens où nous avons à répondre à un très grand appel et à un très grand désir de Dieu de donner la vie, de donner la vie en abondance. Donc, dans la mesure, vous voyez, où le monde moderne est particulièrement tenté de faire abstraction de sa dépendance à Dieu, il n'est pas étonnant que sur cette question de la procréation, qu'elle soit un lieu de cristallisation d'énormément de combats. Parce qu'en réalité, c'est toute la mentalité moderne qui consiste pour l'homme à vivre sa vie d'une manière autonome. C'est toute cette mentalité qui se retrouve ici en jeu. Et donc, il ne faut pas penser que nous puissions rentrer dans ce que l'Église enseigne sans une profonde conversion de la mentalité de notre esprit. C'est Benoît XVI qui parle de deux mentalités qui s'opposent de manière inconciliable. Une mentalité qui considère que la vie humaine est entre les mains de l'homme, et l'autre qui reconnaît qu'elle est entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut aller plus loin et essayer de comprendre ce que signifie le fait que le mariage est appelé à être vécu comme un service de la vie, ordonné à la procréation et à l'éducation, et pas simplement comme le lieu d'une communion, d'une union des deux pour leur plus grand bonheur? Pourquoi le mariage est-il ordonné au service de la vie? Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'union conjugale elle-même? Je pense en profondeur, il y a, je dirais, radicalement le fait pour l'homme et la femme d'accepter que leur amour mutuel soit aussi un service de Dieu, de ne pas vivre cet amour mutuel refermé sur lui-même, de ne pas vivre leur union refermée sur eux-mêmes, les amène à aller plus loin dans le don d'eux-mêmes. C'est en vivant leur amour au service de Dieu que les époux pourront aller jusqu'au bout du don d'eux-mêmes. C'est en s'ouvrant à Dieu, en vivant l'obéissance à Dieu, en se décentrant de leur union et en la mettant au service de Dieu, qu'ils pourront la vivre pleinement. On revient toujours à la même question, c'est-à-dire le vrai don de soi, il est dans l'abandon à Dieu. Et donc, ce qui est en jeu à travers la question de la procréation, c'est aussi la profondeur, le chemin de sanctification de l'amour humain qui passe par le service de Dieu. Les époux s'acquitteront de leur charge en toute responsabilité humaine et chrétienne, dans un respect plein de docilité à l'égard de Dieu, d'un commun accord et d'un commun effort, ils se formeront un jugement droit. Donc, les époux sont appelés à servir la vie que Dieu veut donner, en toute responsabilité, dans un plein respect de docilité à l'égard de Dieu, dans l'écoute de Dieu et d'un commun accord, c'est-à-dire ce jugement, c'est à eux de le porter, mais en restant à l'écoute de Dieu et en restant aussi à l'écoute l'un de l'autre, pour pouvoir discerner ensemble cet appel de Dieu.
Alors, par rapport à ça, oui, nous on a 7 enfants. Et alors, au début de notre mariage, on a eu 3 enfants, l'un après l'autre, 3 enfants en 3 ans. Et je pensais que, c'était nous qui les avions faits, ils nous appartenaient, ils étaient, on était très contents d'avoir nos 3 enfants. Et puis, j'étais très fatiguée après ces 3 enfants. Et puis alors, j'en voulais plus. Et j'ai décidé de prendre la pilule. Et voilà, donc pendant quelques années, j'ai pris la pilule, je ne voulais pas d'enfants. Et puis, Dieu nous a rattrapés, en fait. Et voilà. Et en fait, notre regard, justement, sur les enfants a complètement changé et on s'est à nouveau ouvert à la vie, on s'est reposé la question, etc. Et du coup, d'autres enfants sont venus, un quatrième d'ailleurs qu'on a appelé Benoît, béni de Dieu, en fait, mais on l'a pas pensé à ce moment-là à son nom, on l'a appelé comme ça, et pour nous, quand même après coup, c'est un peu un signe, mais notre regard sur ces enfants-là, c'est vrai qu'on s'est dit à ce moment-là que c'était véritablement un don de Dieu. Vous voyez, la mentalité avait changé, on les recevait en fait de Dieu plutôt que de les faire nous-mêmes. Donc on a eu ces 3 enfants, donc on en avait ces 4 enfants, on en avait 7. Et puis il est arrivé un moment où j'avais envie d'en avoir même un 8e et tout, et j'étais repris, vous voyez, par la volonté de faire moi-même. Et puis en fait, j'ai fait 2 fausses couches l'une sur l'autre, vous voyez, je me suis dit, mais finalement, à nouveau, je me suis remis devant Dieu, et j'en voulais à Dieu, en fait, quelque part, ça n'allait pas comme je voulais. Et en fait, à tout moment, en fait, il faut se remettre devant le Seigneur, devant la volonté de Dieu, et même j'avais des textes dans la Bible qui disaient qu'il y a un moment pour tout, et j'acceptais pas ça, vous voyez. Puis après, j'ai accepté, j'ai compris, et puis voilà,
Bien, je vous remercie pour ce témoignage qui permet de mieux comprendre que la question de fond, c'est une conversion quant à ce rapport à la vie. J'ai lu un livre écrit par un médecin athée expliquant qu'il était temps de désacraliser la vie et d'en faire une matière dont la société aurait la gestion. C'est même pas les couples, mais la société. Donc de se libérer de toute une vision judéo-chrétienne de la vie pour que l'homme puisse affirmer sa pleine maîtrise de la vie. Vous voyez, sur cette question du rapport à la vie, c'est vraiment la question du rapport au Créateur, ce que j'ai essayé d'exprimer, mais là nous sommes tous contaminés, esprit d'indépendance, d'autonomie, encore une fois, se cristallise sur cette question-là. Accepter de mettre sa vie au service d'un désir qui n'est pas d'abord le nôtre, mais celui de Dieu. D'un dessein qui n'est pas, qui ne correspond pas à notre projet de vie, mais qui correspond au projet de Dieu. Et j'insiste pour dire que cette conversion de mentalité qui fait que on met cette relation au service de la paternité de Dieu, est en même temps le meilleur, ce qui assure la vérité de l'amour conjugal. C'est-à-dire que, vous savez bien la parole, s'aimer l'un l'autre, c'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction, c'est cette mise au service de Dieu commune, qui fait que les époux se retrouvent en profondeur, précisément unis par leur obéissance à Dieu. unis dans une commune obéissance à Dieu. L'homme et la femme ne peuvent pas se trouver en se recherchant, mais ils se trouvent en recherchant Dieu et en recherchant sa volonté. Là, on touche quelque chose de très profond qu'on ne peut pas expliquer entièrement rationnellement, mais qu'on peut vivre par contre et découvrir. Alors, se mettre au service de Dieu, mettre vie conjugale au service de la paternité de Dieu, c'est vivre ce qu'on appelle la paternité responsable, c'est-à-dire celle qui répond à l'appel de Dieu. La paternité responsable doit donc se réaliser selon les voies de Dieu. Paul VI parle des voies honnêtes à suivre. Mais les voies honnêtes, c'est les voies qui correspondent à la sagesse divine. Pour discerner ce qui convient et ce qui ne convient pas, l'Église a énoncé un principe fondamental qui est celui du lien, je cite, « indissoluble » qui existe entre les deux significations de l'acte conjugal. C'est-à-dire la signification unitive, l'union, puis la signification de procréation. Alors, je précise ici tout de suite une chose, c'est que ce principe, cette loi, elle n'est pas simplement un décalque de la loi biologique. C'est un fait que l'homme et la femme en même temps ils s'unissent, qu'ils font une seule chair, pose en même temps les conditions d'une nouvelle vie. C'est inscrit dans le corps. Mais ce que l'Église fait, c'est qu'elle lit la loi biologique dans un regard de sagesse, elle se laisse enseigner par ce qui est inscrit dans le corps, mais elle découvre une loi spirituelle, si je puis dire, dans ce qui est inscrit dans le corps, pour dire que l'acte conjugal, ne peut être bien vécu que s'il demeure dans cette ouverture à la vie. Que l'union des deux suppose dans l'acte conjugal que l'amour reste ouvert au service de Dieu, reste tourné vers Dieu et dans cette attitude du serviteur disponible au désir de son maître. Ce principe, il joue dans les deux sens. C'est-à-dire que l'Église nous dit que l'union des deux doit rester ouverte à la vie. Elle nous dit aussi que la vie doit naître de l'union des deux. On y reviendra à propos de la procréation artificielle.
En fait, c'est vrai que petit à petit, on peut découvrir qu'il y a un lien entre cette communion des époux et ce don de la vie. Et on peut regarder le corps comme en fait porteur d'un message dans sa sagesse. Il y a une sagesse du Créateur dans la façon dont l'homme et la femme sont créés. Et dans cette sagesse de Dieu qui a créé l'homme fertile chaque jour et puis la femme fertile certains jours du cycle, eh bien il y a vraiment une sagesse de Dieu que l'on peut apprendre à reconnaître, à observer et à accueillir aussi, à s'émerveiller qu'il y a aussi dans cette sagesse un enseignement sur comment vivre notre amour en fait.
L'homme et la femme sont appelés à s'unir dans l'acte conjugal restant disponible au désir de Dieu, restant à l'écoute du désir de Dieu. L'essentiel, c'est ce qui se passe dans notre cœur. L'essentiel, c'est au fond de soi de rester dans cette attitude d'écoute, de service de Dieu, en ayant conscience que cette union conjugale, elle est là aussi pour bien coopérer à la paternité divine. Donc d'un côté, il y a l'intention profonde du cœur, la conversion du cœur, et de l'autre côté, il y a les actions concrètes que l'on pose. Qu'est-ce que dit l'Église ? Elle dit que la contraception, l'acte de contraception, est en contradiction objective avec cette ouverture de cœur à la vie dans l'acte conjugal. Et ça, c'est très difficile à comprendre parce qu'on vit dans un monde où les actions concrètes, elles ont le sens qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où ce qui, la seule chose qui est vraiment finalement une valeur morale, c'est l'intention. Alors, c'est évident qu'on peut utiliser la pilule tout en ayant l'intention de donner la vie autant qu'on peut, mais conscient que dans la situation dans laquelle on est, actuellement, on ne peut pas donner la vie. Plutôt, on ne peut pas servir, on ne peut pas coopérer à la paternité de Dieu. Qu'est-ce que nous dit l'Église ? Elle nous dit que l'intention ne suffit pas. Il faut que l'acte concret, je dirais, soit objectivement en accord avec cette ouverture. Ce qui m'a aidé à le comprendre, l'importance de l'acte concret, le poids de cet acte concret, c'est les expériences qui ont été faites en Inde, où sur deux groupes de population, de plusieurs milliers de personnes, le gouvernement indien a voulu faire l'expérience. Hein, à un groupe, il a donner la pilule, et à l'autre groupe, il leur a enseigné les méthodes naturelles. Bien enseigné, les méthodes naturelles sont très aussi fiables que la pilule, pratiquement. Et donc, pendant 2 ans, on n'a observé aucune différence. Mais au bout de 2 ans, le groupe, je crois que c'était à peu près de 5000 personnes, qui avait accepté de jouer le jeu, si je peux dire, les personnes donc, qui suivaient les méthodes naturelles, eh bien, ont arrêté de jouer le jeu. Elles ont décidé d'elles-mêmes de donner la vie. Alors que ceux qui avaient pris la pilule sont restés dans cet esprit contraceptif. Ce que je veux dire, c'est que les actes concrets que l'on pose rejaillissent sur le cœur. On ne peut pas dire, moi je reste ouvert à la vie, je reste disponible pour Dieu, j'utilise la pilule, mais au fond de mon cœur, j'ai toujours ce désir de donner la vie autant que c'est possible. Parce qu'en réalité, ce que je pose et ce que je vis dans mon corps touche mon cœur. Il y a un poids, il y a une signification objective de l'acte, et c'est ça que l'homme moderne a du mal à comprendre parce que il vit le rapport au corps, le rapport aux actions concrètes comme étant, encore une fois, quelque chose qui ne dépend que de son attention, que du sens qu'il veut y donner. Et donc ici, on se heurte à une incompréhension de fond par rapport à l'acte humain, de penser qu'il y a des actes qui, quelle que soit l'intention, sont intrinsèquement désordonnés. Il y a intrinsèquement en contradiction avec une intention bonne. Maintenant, Il est vrai que aussi, on peut très bien ne pas utiliser de moyens contraceptifs et avoir un cœur fermé à la vie. Et que reste toujours premier ce que l'homme vit en profondeur dans son cœur. Faire attention au pharisianisme. Hein. Il y a des personnes qui, finalement, à leur insu, sont dans une mentalité contraceptive sans utiliser la contraception, autrement dit. Comme il y a des personnes qui sont vraiment dans leur cœur ouvert à la vie et qui utilisent la pilule, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils abîment leur cœur. Ils ne se rendent pas compte de la contradiction et ils ne se rendent pas compte que ça les incline dans une pente, malgré eux, qui sera celle de plus en plus d'un esprit contraceptif. On ne peut pas séparer ce qui se passe dans notre cœur et dans notre corps, c'est ça le principe essentiel qui nous guide depuis longtemps dans notre réflexion. Alors, par rapport à la gravité de la contraception, il faut se rappeler qu'il y a trois sources de la moralité des actes. L'intention, l'objet de l'acte, c'est-à-dire l'acte lui-même dans son objectivité, ce qui est voulu. Hein, ce qui est voulu objectivement dans la contraception, c'est empêcher l'avènement d'une nouvelle vie. Et puis ensuite, la troisième source de la moralité de l'acte, ce sont les circonstances. Et ici, l'Église, évidemment, est tout à fait consciente qu'il y a des circonstances qui diminuent énormément la gravité de la contraception. Notamment celles liées à des problèmes de santé. Mais ce n'est pas parce que les circonstances peuvent rendre très difficile l'observation de cette loi que pour autant on ne doit pas tendre vers la sainteté, on y reviendra par rapport à la question de la gradualité. Je voudrais aussi préciser une chose, c'est que dans toutes les polémiques qui ont eu lieu autour de la contraception sont liées aussi au fait qu'on n'a pas fait attention à ce que disait vraiment Humanevitae. Humanevitae ne parle que de l'acte conjugal et situe tout son jugement à l'intérieur du mariage. C'est le mariage, c'est-à-dire une union scellée par Dieu et au service de Dieu, c'est le mariage qui est appelé donc à être le lieu de la procréation au sens où c'est le seul lieu digne d'une nouvelle vie humaine. On y reviendra à propos de la procréation artificielle. Et donc, ça veut dire que le même principe qui nous dit que, je veux dire, le même principe qui nous dit que, donc, la dimension unitive de l'acte conjugal ne doit pas être séparée de sa dimension de sa fécondité, hein, qui nous fait dire qu'en dehors du mariage, en dehors d'une véritable union des deux, ben il faut éviter qu'il y ait une nouvelle vie. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et donc, la responsabilité de l'homme et de la femme quand ils vivent leur sexualité en dehors d'une véritable union, c'est de faire ce qu'ils peuvent pour éviter qu'une vie naisse dans un acte indigne de la vie. Moi je dis, il n'y a pas une permission d'utiliser des moyens contraceptifs en dehors du mariage, je dis, il y a un devoir. Évidemment, si on ne comprend pas ça en profondeur, on en arrive à penser que l'Église, elle est complètement à côté de la réalité de ce que vivent les jeunes, notamment les adolescents. Dieu n'a jamais demandé à des adolescents irresponsables et incapables d'une véritable union de concevoir une nouvelle vie humaine. il leur demande s'ils vivent la sexualité d'une manière désordonnée, de ne pas concevoir là où il n'y a pas un véritable amour, toujours en raison du même principe. Et même à l'intérieur du mariage, là où il n'y a pas de véritable acte conjugal, mais plutôt une forme de violence, les viols à l'intérieur du mariage. Pensez à des couples où l'un des deux est ivre, et bien à ce moment-là, le fait d'utiliser un moyen de protection pour éviter qu'une nouvelle vie naisse d'un acte qui n'est pas vraiment un acte conjugal, parce qu'il n'y a pas une réelle union des personnes, est légitime. Non seulement légitime, je dirais, mais et quelque chose à faire. Un enfant n'a pas à naître à l'intérieur d'une relation entre un homme et une femme mariée, n'a pas à naître d'un viol. Quand c'est le cas, maintenant, on sait que les circonstances de la conception marquent profondément l'enfant. Donc, l'Église est plus fine que ce qu'on pense. Hein. La loi de l'Église, elle est humaine. C'est en la comprenant, dans toute sa rigueur, qu'on s'aperçoit que, ce qui est exigé par cette loi, en fait, dans la plus grande rigueur n'empêche pas, la souplesse, mais c'est tout simplement de comprendre en vérité cette loi pour pouvoir l'appliquer en vérité. C'est pas de faire des exceptions, non. C'est la même loi appliquée qui permet d'avoir des comportements apparemment contradictoires, mais qui ne le sont pas.
Et on comprend la difficulté d'expliquer un tel langage, étant donné que certains pourraient traduire « Bon, allez, on donne la pilule à tous nos enfants, ils font ce qu'ils veulent, c'est des actes indignes. » Donc c'est complexe, ça demande d'ailleurs une éducation intelligente et approfondie. Bon, c'est pas simple. Hein.
Nous avons entendu ce que Daniel Perloui, il y a quelques semaines, en préparant l'enseignement. Et du coup, nous sommes lancés à en parler à notre aîné. C'est vrai qu'on se disait, mais en fait, il y a un petit peu un risque, parce que du coup, ça peut être entendu comme un encouragement à utiliser la contraception. Et en fait, on a été surpris qu'au contraire, ça lui permettait de mieux comprendre la grandeur de l'union entre l'homme et la femme.
Et combien l'enfant à naître devait être respecté et accueilli dans une dignité, dans un amour digne.
Maintenant, imaginez que le pape rentre dans ces distinctions de manière explicite en disant, en fait, c'est que seulement quand on est marié qu'on n'a plus le droit à la contraception, on va dire, mais c'est n'importe quoi, il ne risque pas de rentrer dans l'intelligence en profondeur de cette loi et comprendre que ce n'est qu'une application de la loi et pas une contradiction. Donc sur cette question, on est dans une situation délicate. Parce que évidemment, plusieurs fois, on a demandé au magistère de se prononcer là-dessus. À vrai dire, il y a des théologiens qui défendent la position comme quoi c'est toujours, quel que soit les circonstances, même en dehors du mariage, c'est toujours malhonnête d'utiliser un moyen contraceptif. Mais ils sont de plus en plus rares, si je puis dire. Hein. Mais il y a des rigoristes. Hein. Mais si plus profondément, c'est pas parce qu'il reste un certain désaccord entre théologiens, plus profondément, je crois que si l'Église là-dessus n'a pas explicité jusqu'au bout, c'est à cause du problème de la réceptivité, de la réception. Donc c'est plus une affaire de confesseur, autrement dit. et dans un dialogue personnel. Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que la manière dont vous avez dit les choses, intellectuellement, on est prêt à les entendre ici, de dire qu'en dehors, dans le cas d'un viol ou d'une union où l'un des deux est libre, que l'enfant n'a pas à naître, ben, je veux dire, pour les gens qui sont dans ce cas-là, c'est quand même jeter discrédit sur leur raison d'être. Enfin, tout à l'heure, quand vous avez dit.
C'est pas n'a pas à naître, c'est n'a pas à être conçu.
Être conçu. Ben, ouais, mais bon,
c'est pas la même chose.
Peut-être, mais pour pouvoir l'entendre, je veux dire, là, dans le cadre de l'explication globale, on peut l'entendre. Mais c'est un message qui peut être porté de la même chose. Ben, en fait, j'ai peut-être mal compris, mais j'avais l'impression. Vous disiez que quand c'était un amour qui n'était pas sincère, la vie n'avait pas à venir, à survenir, disons. Mais pour ce serait peut-être inciter
les gens à avorter.
Bah ouais, ou même les gens à culpabiliser d'être là parce qu'ils ne sont pas le fruit d'un amour complètement sincère. Ouais.
Oui. Écoutez, c'est vrai, non, mais je vous remercie de montrer cette difficulté. Hein, de penser que même d'arriver à penser que même s'il est, on pourrait y revenir par rapport à la procréation artificielle, hein, d'enfants qui sont nés d'une éprouvette, pas dans un acte d'union à proprement parler, de penser qu'il y a donc à la conception quelque chose qui a manqué et qui va les marquer dans leur être, de manière mystérieuse, mais qu'on peut vérifier. De penser que l'amour et la sagesse de Dieu, même si l'homme ne suit pas ses chemins, est capable de, je dirais, de faire que cette blessure originelle ne soit pas un obstacle à sa vocation éternelle. Mais c'est pas parce que on dit que Dieu peut se servir du mal pour un bien plus grand qu'il faut pas éviter le mal. Maintenant, quand la vie est là, on l'accueille dans cette confiance totale que le Seigneur saura réparer et même se servir de circonstances de fait objectivement indignes de la conception d'une nouvelle personne humaine, mais qui face à l'amour miséricordieux de Dieu reste des circonstances qui n'arrêtent pas pour autant le dessein divin.
Moi j'ai entendu Ratzinger, c'était une interview du cardinal Ratzinger juste avant l'élection, et un journaliste lui pose une question alambiquée, oui, et si dans un couple il y en a un qui a le sida? Et là, il a dit, oui, et là, j'ai bien vu, c'était un pasteur, c'était pas un dogmatique, c'était pas le responsable du dogme, c'était le pasteur, le prêtre, le confesseur, c'est le confesseur qui m'a fait tilt, qui a dit, oui, bien entendu, il pourra utiliser le préservatif. Là, il s'agissait du préservatif à ce moment-là, mais j'ai bien vu cette dimension, il a changé la casquette de rédacteur du dogme en pasteur.
Attendez, si vous m'avez bien suivi, c'est le dogme lui-même qui demande à faire ça.
Oui, mais c'était pour le message.
Il n'y a pas de dogme à proprement parler. Il y a une doctrine de l'Église qui est devenue traditionnelle, qui n'a pas été dogmatisée. Et ensuite, c'est la compréhension en vérité de ce que l'Église enseigne qui amène à dire ça. C'est pas je fais une exception parce que je suis compatissant. C'est je comprends en vérité ce que dit l'Église. Différent. Écoutez, on peut pas. Je pense qu'on peut pas traiter toutes les situations, mais j'aimerais que vous vous réconciliez avec la sagesse de l'Église, comprendre que l'Église est humaine, elle est une mère, et c'est Dieu surtout qui est humain, si je puis dire. Hein, il peut pas nous donner des lois qui soient, je dirais, inhumaines et vraiment en contradiction avec la réalité de la vie. Donc l'Église invite les couples à recourir, hein, là où il existe des raisons, des motifs sérieux pour espacer les naissances, à recourir, à tenir compte des rythmes naturels, hein, pour, je dirais, avec sagesse et discernement, hein, continuer à servir la vie en tenant compte du fait qu'une nouvelle vie demande à pouvoir être accueillie et servie jusqu'au bout dans l'éducation. Et donc, le même amour qui me fait coopérer à l'avènement d'une nouvelle vie me fait espacer et retarder et éventuellement renoncer à donner encore la vie pour le même amour pour la vie, c'est-à-dire que cette vie, elle demande d'avoir des conditions qui rendront possible l'éducation, qui rendront possible le fait de la porter jusqu'au bout. Donc on peut très bien utiliser les méthodes naturelles pour éviter de concevoir une nouvelle vie en étant mû en profondeur par l'amour de la vie, comme si on pourrait les utiliser dans une mentalité contraceptive, évidemment.
Avoir un cœur qui reste ouvert à la vie, c'est pas toujours facile de se dire est-ce qu'on est dans ce très grave devoir de donner la vie, est-ce qu'on a une raison juste et grave de ne pas la donner aujourd'hui, de ne pas être ouvert aujourd'hui concrètement. Donc en fait, ce qui est important, c'est de garder un cœur ouvert et peut-être d'accepter régulièrement de se remettre devant le Seigneur et de lui reconfier cette responsabilité du don de la vie qu'il nous a confié, et qu'on puisse ensemble se dire, mais Seigneur, être à l'écoute de sa volonté dans un choix qu'on pose, et peut-être de ne pas s'enfermer dans un choix, mais d'accepter d'en reparler régulièrement. C'est peut-être ça, avoir aussi un cœur ouvert à la vie, c'est reparler régulièrement de cette responsabilité qui nous est confiée, pour voir devant le Seigneur, ensemble, entre époux, quel est cet appel pour nous aujourd'hui.
Je crois que, effectivement, moi, je pense que c'est important, c'est de pouvoir en reparler au sein du couple, parce qu'une vie de couple évolue et chacun évolue aussi, mais pas toujours ensemble. Et quelquefois, on a l'impression d'être accordé et on n'est plus tout à fait. Et c'est important aussi d'accueillir sur ce cheminement les ambivalences qu'on peut avoir. Hein. On peut souhaiter être ouvert à la vie et puis, malgré soi, il y a quelque chose qui bloque, on sent qu'il y a un obstacle. C'est là où ça peut être important de s'en offrir à son conjoint, ou si c'est trop difficile de s'en offrir à son conjoint, de pouvoir en parler à une tierce personne. C'est vraiment important d'accueillir ces moments où on sent que c'est pas facile, où on sent qu'on n'est pas disponible, où voilà, il y a les ambivalences.
Dans le respect des rythmes naturels, qui est une manière d'épouser la sagesse de Dieu inscrite dans le corps, et d'épouser son dessein, il y a toute une, je dirais, un chemin de sanctification et un chemin d'approfondissement de l'amour conjugal. Vous voyez, c'est là où on se rend compte que la relation à la vie et la relation conjugale, la relation de l'homme et de la femme, sont indissociables. Je dis que cette ouverture concrète à la vie dans le respect des rythmes naturels, donc, est le chemin d'un approfondissement de l'amour lui-même, notamment dans l'attention à l'autre, dans le respect réciproque, nous dit Jean-Paul II, dans la maîtrise de soi, dans l'enrichissement de la relation par des valeurs de tendresse qui permettent de vivre les temps d'abstinence comme des temps d'approfondissement de l'amour.
Moi, ça m'a toujours frappé que les périodes où j'étais féconde et et nous souhaitions tous les deux attendre, ne pas avoir d'enfants en ce moment, eh bien, c'était des périodes de plus de communication et de tendresse entre nous. où justement à cause de la privation, la relation s'approfondissait énormément. J'ai trouvé toujours comme une souffrance que nous, les femmes, à la période où on a le plus de désir, la période où on est féconde, c'est justement la période où il faut justement se priver. Et par contre, quand on n'en a plus envie, eh bien là, il faut faire l'effort de... Et j'ai demandé longtemps au Seigneur en lui disant, bon, écoute, c'est forcément intelligent si tu as fait ça comme ça, donc je voudrais comprendre. Et un jour, j'ai vraiment eu dans le cœur très fort que le Seigneur me disait, mais c'est pour la compassion qu'il fallait que... Et je l'ai vécu différemment après. Je me suis dit, bon, les périodes où je suis féconde, où moi, j'ai un désir d'union, eh bien, le fait de... Ça m'a obligée à faire attention et de me dire... Eh bien, quand lui, mon mari, il a envie et que moi, normalement, je ne suis pas féconde et que l'union doit avoir, eh bien, je ne dois pas faire de lui un mendiant. Et le fait de cette compassion, de se dire, bah, lui, voilà, c'est dur beaucoup plus souvent que pour nous, puisque nous, la fatigue aidant, le rythme féminin étant différent, etc., on a beaucoup moins, les combats sont moins durs. Eh bien, donc, qu'il y ait quelques jours où ça soit un peu plus dur pour nous, eh bien, je trouve que ça nous aide à comprendre notre conjoint. Et on en a souvent parlé, ça a été l'occasion pour nous d'une plus grande communion, une plus grande tendresse.
Est-ce que le désir est surtout d'origine hormonale ?
C'est vrai que le désir est plus fort dans la période fertile du cycle, sur un plan hormonal, mais en même temps, le désir, il se laisse aussi éveiller par la tendresse, hein, et accepter que nous ne sommes pas que sous une influence hormonale, mais que nous sommes, que ce désir, il peut s'éveiller dans notre corps de façon très forte par la tendresse, par l'accueil de notre mari et sa délicatesse. Et c'est aussi très beau de découvrir ça. Est-ce que ce qui va faire que je me tourne vers mon mari, est-ce que c'est ce désir hormonal ou est-ce que c'est l'amour que j'ai pour lui ?
Pour être attentif à ce que Dieu nous dit à travers le corps, c'est un fait que l'utilisation de la pilule tend à rendre la femme plus frigide. Et si Dieu permet ça, c'est pour enseigner évidemment. C'est-à-dire que cet aspect de l'attraction, du désir de l'un envers l'autre, eh bien, lui-même, il dépend aussi du rapport à la vie, en profondeur. À un moment, on a fait des recherches pour voir si on ne pourrait pas utiliser une pilule pour les hommes, et on y a renoncé parce qu'on s'est aperçu que ça avait les mêmes effets sur l'homme. Comme ce sont les hommes qui font ce genre de recherche. Vous savez, la nature, elle ne ment pas, hein. Elle nous rattrape. Hein. Faire confiance à la sagesse de Dieu. Rester à l'écoute du corps, dans le respect du corps, de ce qui est inscrit dans le corps, pour pouvoir épouser pleinement cette sagesse de Dieu, en acceptant que le corps étant marqué par les conséquences du péché originel, c'est-à-dire notamment par la maladie, eh bien, l'usage des méthodes naturelles puisse être aussi marqué par la croix et obligé à de grands sacrifices là où leur usage est rendu plus difficile à cause de problèmes de santé. Il faut aussi comprendre que l'éducation qui est proposée à travers l'usage de le respect du cycle de la femme, l'usage de cette méthode naturelle, elle demande du temps pour être assimilée et comprise. Elle demande aussi l'acquisition de la vertu de chasteté. Et donc elle demande du temps, c'est ce que l'Église appelle la loi de la gradualité, c'est-à-dire c'est un chemin graduel dans lequel il faut accepter des étapes, mais accepter de ne pas pouvoir correspondre tout de suite au dessein divin, mais d'y tendre en même temps en s'en remettant continuellement à la miséricorde de Dieu. La résignation au péché est plus grave que le péché lui-même. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre ces méthodes et se disent « bon, c'est trop difficile pour nous, donc on laisse tomber », se rendent pas compte qu'elles blessent le cœur de Dieu plus par leur désespérance que par leur manque de chasteté ou de maîtrise d'elles-mêmes. Donc de penser que où qu'on en soit, d'essayer d'avancer dans ce sens-là, dans le sens d'un plus grand respect de cette loi inscrite dans le corps, ça ne peut être que, je dirais, un chemin d'épanouissement et de sanctification, au moins dans l'humilité et dans la confiance en la miséricorde de Dieu pour l'homme et pour la femme.
Moi, je dirais même que c'est un lieu privilégié pour faire l'expérience de nos pauvretés, de faire l'expérience du pardon, de faire l'expérience de notre orgueil et du coup de pouvoir travailler dessus. Je trouve que c'est vraiment un lieu de purification et un lieu qui nous oblige à travailler. Nous, quand on était fiancés, ça a été la grosse découverte. On est resté fiancés 4-5 ans. Et on avait décidé de se marier, de respecter ce que l'Église nous demandait, et d'être chaste et d'être dans l'incontinence jusqu'au mariage. Et ça a été ma grosse découverte, c'est ma faiblesse et ma difficulté. Et je pense, toi aussi, non ? Pas trop. Et en fait, ça a été une grosse découverte qui a été l'occasion de réaliser à quel point j'avais besoin du Seigneur. Je me souviens de m'être dit, finalement, j'étais une enfant assez sage, j'avais pas fait trop de grosses bêtises, et je découvrais dans ce domaine que j'étais hyper faible, et ça a été quelque part presque une joie de me dire, j'ai vraiment besoin d'un sauveur. Quoi.
Je voudrais juste dire un mot sur la question du désir qui vient d'être évoquée, qui est très importante dans un couple. Et on n'est pas tous égaux devant le désir. On peut très bien ne pas savoir ce que c'est, ne pas le vivre pendant des années. Et c'est aussi un cheminement au sein du couple. Tout dépend aussi des blessures que l'on a pu vivre. Et quelquefois, effectivement, ça prend du temps aussi pour se réapproprier son corps. On a l'impression d'être dans son corps, mais en fait, on ne l'est pas du tout. Voilà. Donc, effectivement, c'est sacré. Ça demande quand même beaucoup de respect, beaucoup de tendresse. Et beaucoup de patience aussi, j'ai envie de dire. Pour tout ce qui nous constitue. C'est vrai qu'un couple, ce sont deux êtres. Hein, nous avons aussi notre inconscient et nous avons tout notre arbre généalogique derrière nous. Donc il est vrai que quelquefois, c'est bon aussi de s'interroger sur qu'est-ce qu'ont vécu les femmes avant moi dans ma généalogie. Un docteur parlait de l'arbre gynécologique. Quelquefois, quand on se retrouve face à des problématiques importantes, ça vaut le coup d'y réfléchir.
Si on essaye de jeter un regard de sagesse sur tout ce qui vient d'être dit, ça dit que la fécondité des époux par rapport à cette mission à servir la vie, elle est en réalité d'abord une fécondité spirituelle qui trouve toute sa réalisation dans l'éducation. Mais cette fécondité spirituelle, l'Évangile nous dit qu'elle passe nécessairement par la croix. Et les difficultés rencontrées par les couples dans l'observation de la loi divine sont à comprendre à l'intérieur de cette loi supérieure qu'est la loi de la croix. Et qui assure en réalité une fécondité plus profonde. Quand bien même il y aurait beaucoup de chutes et beaucoup de péchés de faiblesse, nos faiblesses, c'est aussi notre croix. Dans la mesure où on vit les choses dans l'humilité et dans la confiance en la miséricorde de Dieu, tout peut contribuer à cette plus grande fécondité. Et donc, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de vous lancer dans cette aventure. Le pire serait de ne pas pouvoir prendre ce risque de suivre Jésus sur ce chemin-là, exigeant, en ayant peur de ne pas y arriver, alors que ce ne sont pas nos chutes, encore une fois, qui sont le problème, mais c'est plutôt notre manque d'espérance et notre résignation à ne pas, je dirais, à ne pas aller jusqu'au bout de notre engagement à suivre Dieu, à suivre le Christ sur ce chemin du service de la vie. Je propose qu'on s'arrête là, à moins qu'il y ait un couple qui veuille donner un dernier témoignage. Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions qui voudraient être qui pourraient être posées là pendant qu'on est tous ensemble? Il y a un couple venu aussi spécialement cette soirée parce qu'ils sont formateurs pour les méthodes naturelles. Luc et Florence sont aussi formateurs. Si vous voulez, ça peut être bien qu'il puisse y avoir un dialogue plus personnel pendant les 20 minutes qui nous restent, s'il n'y a pas de questions qui montrent comme ça maintenant.
Les méthodes naturelles vont des choses dans la fonction mariage. C'est très rare qu'on me propose une formation à ces méthodes naturelles. Donc moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre déjà. C'est dommage qu'au moins on ne nous offre pas la possibilité, même si on a été préparé par un prêtre, on n'a jamais parlé de ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup gêné. On a été obligé de demander d'avoir une séance sur la sexualité dans le couple. Ce qui me paraît quand même essentiel. Parce que effectivement, la sexualité, c'est quelque chose de, j'allais dire, de. Pas de matériel, mais en tout cas qui est loin de la spiritualité, mais c'est aussi quelque chose de spirituel, c'est le but de l'exposition de ce soir. Donc déjà, c'est ma première question, enfin, ma première interrogation. Et ma deuxième interrogation, c'est les méthodes naturelles. Bah, je pense qu'on a un enfant, ça va, deux enfants, ça va. Et moi, je sais que personnellement, arrivé à un certain moment, je vais dire, bon bah là, ça commence à être le stress, c'est-à-dire que le moindre combat, bon, vous avez 10 enfants et vous avez l'air hyper heureux, et je pense que vous avez une famille très réussie, mais personnellement, moi, je ne vois pas avoir 10 enfants, et c'est ça qui me fait peur, en fait, vraiment, dans les méthodes naturelles.
Est-ce que je peux me permettre de... Je crois que s'il faut revenir sur ce qu'a dit le père Vestier tout à l'heure dans son enseignement, il faut avoir en tête que là, quand on parle de ouvert à la vie et de générosité, c'est pas forcément en nombre. C'est quand on décide de pratiquer une telle attitude dans sa vie sexuelle, en fait, on est amené à se poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on peut décider, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a plus d'enfants que les autres en moyenne? C'est parce qu'on se pose tout le temps ces questions-là, en fait. C'est ça. Mais c'est pas parce qu'il y a aussi des couples qui utilisent cette méthode qui ont trois enfants, parce que, voilà. Mais je pense que le nombre n'est pas forcément signe d'ouverture à la vie. Vous savez que nous, par exemple, on dit toujours si on en avait utiliser la pilule, on aurait eu 7, mais avec peut-être 3 ans d'écart chacun. Il ne s'agit pas non plus de choisir une méthode qui marche moins bien que les autres ou sur laquelle on pourrait dire oui, il y aura des ratés forcément, donc vraiment on reste ouvert à la vie. Voilà. Mais ça me semble important. Le nombre ne fait pas la générosité forcément.
Je suis complètement d'accord.
Parce que ce que disait le père Pelletier est très important, c'est-à-dire qu'il faut aussi anticiper. On ne peut pas non plus dire, oui, j'aurais peut-être pas assez d'argent, j'aurais peut-être pas si, on ne peut pas non plus, mais parce que je pense qu'on n'aurait pas, d'enfants, enfin voilà, on peut, la vie elle est faite comme ça, il y a des choses qui peuvent nous arriver, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en même temps, il faut aussi se dire que peut-être, pour l'instant, on ne peut pas en avoir d'autres, et peut-être on ne pourra jamais en avoir d'autres. Enfin, voilà.
La formation ne peut pas consister à lire un livre, à suivre une ou deux conférences, et de fait, parmi les personnes qui pensent vivre, et qui de fait les vivent, c'est méthode naturelle, une grande majorité n'est pas formée. Donc les livres, de façon non fiable, avec beaucoup d'angoisse parfois, ou parfois ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas formés parce que de fait ils sont tellement réglés comme la musique que ça marche très bien tout seul, vous voyez, alors qu'ils ne sont pas formés, mais ils ne se rendent pas compte.